dans le domaine de la corruption, bah, c'était suffisant, on pouvait s'arrêter là. Hein. Je pense qu'il y avait tout un enseignement là-dedans, on aurait pu y réfléchir encore plus loin. Moi, ça m'interpelle, ça fait pas mal d'années que je suis sensible à un autre niveau, à un niveau de corruption qu'on appelle peut-être pas corruption, c'est le travail au black. Voilà, et pour avoir été artisan moi-même, et puis certains d'entre vous, je sais, sont patrons d'entreprise. Vous savez, c'est tellement facile de quand vous avez quelqu'un qui vous dit « mais je te propose un service, tu me payes comme ça, c'est pas un problème ». Mais à chaque fois que vous faites ça en tant que chrétien, ben vous mettez en péril votre frère qui lui a la même profession, qui doit payer des charges, d'accord, et qui doit se sortir un salaire. Alors ne le faisons pas, faisons attention, et ça nous paraît tellement simple de faire ça, dire « je vais faire ma peinture » et puis on ne fait pas travailler le frère qui a une entreprise de peinture. Mais on va le donner à quelqu'un qui va le faire comme ça, puis on va lui dire à moitié prix, oh, ben je te donne l'argent comme ça. Oui, c'est aussi simple que ça, la corruption, elle vient chez nous comme ça, d'une manière tout à fait anodine, soyons vigilants. Alors c'est un plaisir hein, d'être avec vous, puis on se connaît un petit peu plus, parce qu'on s'est vu à l'INI il n'y a pas si longtemps que ça. Alors il y a des prénoms que j'ai oubliés, maintenant je me rappelle c'est Marie-Jeanne, ce que je t'ai demandé tout à l'heure.
Oui, je sais.
Voilà, et certains prénoms que j'ai oubliés. Alors je sais un peu plus des uns et des autres. C'est d'autant plus c'est un plus grand plaisir encore que de partager la parole avec une fraternité qui a grandi lors de cette rencontre à l'INI. Je vous transmets les salutations des frères et sœurs de l'INI. J'en profite en début de culte. Ce matin, j'aimerais partager avec vous quelque chose de concret. J'aimerais que l'on construise ensemble une maison. Celle dont il est parlé dans Matthieu 7, des versets 21 à 29, et on va parler des fondations ce matin ensemble de construction. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, des versets 21 à 29, et je vais lire dans la version Semeur. Pour entrer dans le royaume des cieux, c'est Jésus qui parle, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur ». Nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connu ». Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles, sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas leurs spécialistes de la loi. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remettons ce temps d'écoute de ta parole, d'enseignement. Parle au cœur de chacun, parle à mon cœur. Fais-nous grandir en toi et de toi. Amen. Voilà, peut-être que ce que je vais dire va bousculer l'un ou l'autre. Alors, une prédication, je le dis régulièrement, n'est pas faite pour faire plaisir, seulement nous conforter dans nos convictions profondes, mais elle est aussi là pour nous faire bousculer, et ce qui bouscule permet d'avancer, il me semble en tout cas. La construction de la tour de Pise, en Italie, a commencé en 1173 et s'est achevé en 1372. Alors, je ne suis pas un historien, je l'ai cherché, hein, je ne sais pas ça par cœur. Cette tour d'une hauteur de 55,70 m, d'un diamètre de 15,50 m, était conçue pour être une belle ajoute à la magnifique cathédrale de Pise. C'était aussi une occasion pour le peuple de Pise de pouvoir se vanter de sa richesse. Peu après le début de la construction, il était évident qu'il y avait un problème. La tour n'était pas tout à fait droite. Elle penchait. Sa base est estimée à 14 500 tonnes. Donc voilà, c'est pas anodin. Les fondations de la tour n'étaient pas assez profondes et on avait construit la tour dans un ancien marécage. En 1990, donc tout ce que je dis est vrai, hein, la tour fut fermée aux visiteurs pour quelques réparations. La tour était prête à tomber. Alors, qui a déjà vu la tour de Pise en vrai? Voilà, il y en a qui l'ont déjà vu, donc voilà. Moi, je ne l'ai jamais vu, j'ai vu que des photos. Alors, il paraît que c'est impressionnant, hein, ça pense.
C'est
pas.
Très, très impressionnant. Hein,
c'est impressionnant. Voilà.
J'ai l'impression que voilà, c'est prendre sur la clé.
Voilà. Et en 1990, donc, il y a eu des travaux qui ont coûté 28 millions d'euros. Ils n'ont réussi à redresser l'inclinaison de la tour que de 40,6 cm. Voilà. Pour les mathématiciens, je sais qu'il y en a. Il y a des profs, même ici. Cela veut dire que chaque centimètre leur a coûté environ 689 000 euros. Oui, grosso modo. Hein, grosso modo. J'ai pas arrondi au centime. Cependant, la tour penche encore. Et un jour, elle tombera sans doute. Peut-être. Nous ne serons peut-être plus là pour le voir. Il me semble que de bonnes fondations sont très importantes par rapport à notre texte et à ce que Jésus nous dit dans Matthieu. La parabole que Jésus raconte dans ce passage parle aussi de fondations. C'est un récit qui est bien connu. Deux entrepreneurs qui bâtissent leur propre maison. Il y en a un des deux qui bâtit sur le roc, l'autre bâtit sa maison sur le sable. Donc, quand la tempête arrive, la maison sur le roc résiste, la maison sur le sable s'écroule. Voilà, c'est ce qu'on vient de lire dans Matthieu. Et contrairement à la tour de Pise, il n'y avait aucune possibilité d'étayer la maison ou d'en améliorer les fondations, dans notre parabole. L'homme est par nature un constructeur. Dès la naissance, nous commençons à bâtir des choses. Qu'est-ce qu'on commence à bâtir? C'est dans le sang. On commence avec des maisons en cubes de modules en bois, par exemple, des modèles réduits en Lego. Hein, tout le monde, plus ou moins, a touché ou sait ce que c'est que des Lego. Des petits avions en bois, des cabanes. Et même les filles construisent. Elles font juste des choses un peu différentes. En général, avec des coquillages ou des perles ou des tissus, elles font des colliers, elles font des choses comme ça. Donc elles construisent aussi des choses. Cette réflexion nous amène à une leçon que Jésus veut nous enseigner dans ce texte. Tous aujourd'hui, nous sommes en train de construire une maison. La vie que nous nous faisons dans ce monde peut être comparée à un édifice qu'on essaie de bâtir. D'un côté, il y a des murs qu'on essaie de monter pour créer une chambre pour notre vie amoureuse, peut-être. D'un autre, il y a les murs qu'on essaie de bâtir pour notre vie de famille, peut-être. D'un autre côté, il y a des murs pour établir notre vie professionnelle, pour abriter notre vie sociale, pour assurer notre vie financière, et ainsi de suite. On est des bâtisseurs. Notre vie peut donc être comparée à une maison. Chaque jour qui passe, nous ajoutons une nouvelle brique à l'édifice. Mais le problème, il y a un problème, c'est que beaucoup ne prennent pas le temps de considérer qu'ils sont en train de bâtir quelque chose qui doit durer. Ils sont comme cet homme qui bâtit sa maison sur le sable et qui est pressé de trouver un confort immédiat. Et aujourd'hui, on est dans une société où on veut tout de suite. Vous savez, ceux qui ont des projets de construction, la première chose qu'ils demandent, une fois qu'ils ont la possibilité financière de construire, c'est « quand est-ce que je peux habiter la maison ?» Attendez, ça ne va pas si vite que ça. On est pressé dans le confort immédiat. On ne considère pas que les implications à long terme dans nos choix. Alors ils font les choses à moitié, ces gens-là, comme des bricoleurs sans vision. Alors une question pour nous ce matin. Alors, je sais que nous avons déjà réfléchi à ce genre de questions, mais je vous réinvite et je nous réinvite à nous reposer cette question. Avons-nous une vision à long terme dans notre construction? Ceci me rappelle une histoire que j'ai entendue il y a quelque temps. Peut-être certains l'ont entendue aussi. Hein. Elle rapporte les aventures d'un Américain qui est parti visiter Londres. Il est arrivé dans la ville au moment où il y avait un énorme chantier de construction. Intrigué par les travaux, il s'est arrêté pour demander aux ouvriers ce qu'ils faisaient. Cet Américain, il arrive, il voit un premier homme qu'il parvint à arrêter sur le chantier et lui dit ceci. Voilà, il lui pose cette question. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans cette construction? Alors le premier homme, il lui dit, tout simplement le premier ouvrier, je pose des briques pour faire un mur. Puis avant même que l'Américain ne puisse lui poser une autre question, celui-ci part boire un café. Le second ouvrier que l'Américain interpelle, avec cette même question, qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur ce chantier? Second ouvrier lui dit, je gagne mon pain en rapportant chaque jour 10 livres à la maison, 10 livres salés. Puis, cet ouvrier alla rigoler avec ses collègues. Le troisième ouvrier interpellé par l'Américain était dans un ouvrage vraiment concentré à couper, poser des poutres, etc. Mais une fois interrogé par celui-ci, il lui dit « J'aide Sir Christopher à bâtir une cathédrale. Ce sera une église magnifique. » Vous voyez la différence entre ces trois hommes qui sont sur le même chantier. Les deux premiers avaient une vision à court terme. Le troisième voyait les choses à long terme. Il avait clairement en tête le résultat. Alors, à votre avis, quel était le meilleur constructeur des trois ouvriers? Qui faisait le meilleur travail? Celui qui était présent pour gagner de l'argent? Celui qui voyait juste son mur qu'il était en train de construire? Ou celui qui avait le désir de voir une belle cathédrale? Revenons à notre texte. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, c'est ce que notre texte dit, entendre, écouter, mettre en pratique, faire. Il y a un contraste entre les deux verbes. Un investissement que Jésus donne, écouter pour mettre en œuvre. Pas seulement écouter pour écouter, ni faire pour faire, écouter pour mettre en œuvre. Ce qu'on a entendu tout à l'heure sur la corruption. J'espère qu'on n'a pas simplement écouté pour écouter. Effectivement, on fait un constat, il y a de la corruption. Ah oui, je le savais. On nous l'a rappelé au culte ce matin. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Pour construire une habitation, nous avons besoin de directives, d'un plan d'exécution. Sans cela, notre construction sera pleine de vices de forme, comme on dit. Alors on pourrait dire que quiconque a les plans d'exécution de l'ouvrage à réaliser et les met en œuvre sera semblable à un homme. Et quiconque a les plans d'exécution et ne les met pas en œuvre, est semblable aussi à un homme. Trois petits points de suspension. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque j'ai un meuble en kit à monter, vous avez vécu cette expérience un peu? Ça vous dit quelque chose? Meuble en kit à monter. Je ne lis quasiment jamais le plan. Alors, peut-être que vous, messieurs, vous lisez le plan jusqu'à la fin. D'ailleurs, il y en a qui sont indécryptables. Hein, c'est des croquis, on lit quasiment. D'accord? Je lis quasiment jamais le plan. Je suis toujours sûr que je suis assez doué, intelligent, logique. J'ai assez d'expérience. Le petit meuble là, ça vient du tout en fait. Hein, d'accord? pour monter les différents éléments les uns avec les autres, sans l'aide de personne, encore moins d'un bout de papier. Mais lorsqu'il s'agit de la construction de ma vie, celle que Dieu m'a offerte, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de lire, d'entendre et de suivre le plan, le mode d'emploi, sans quoi je risque fort de devenir penché comme la tour de Pise, pour ceux qui l'ont vu. Ça vous est déjà arrivé de dire de quelqu'un, j'ai l'impression qu'il est un peu bancal, celui-là, il penche. Il a des idées bien, bien définies, hein, mais par rapport à ce que je comprends dans la Bible, c'est un peu, je ne sais pas, presque corrompu des fois, presque. Corruption, je vous donne une autre définition, c'est faire tout pour mes intérêts propres, pour mon bien-être personnel, sans me soucier de l'autre, hein, je le dis avec d'autres mots, ça a été dit, hein, mais... Sans vouloir minimiser l'importance d'une écoute attentive de la parole de Dieu, le croyant ferait erreur en pensant que le seul fait d'écouter des bons sermons, et je sais que vous en écoutez des multiples, il y a des preuves ici, hein, enregistrées, et vous avez ce privilège d'entendre toute une panoplie de prédications avec de différents styles d'orateurs et de prédicateurs, donc c'est une richesse immense pour vous, Adarnay. Ça ne suffit pas d'écouter des bons sermons. C'est pas en écoutant de bons sermons à l'église que je deviens un bon disciple obéissant à la volonté du Père Céleste. La volonté de Dieu est que justement nous mettions en pratique les paroles de Jésus. Son enseignement doit non seulement être écouté mais entendu, c'est-à-dire arriver jusqu'à notre intérieur profond au point de devenir le fondement, fondation, fondement de notre vie. Toutes les parties de notre être, devraient en subir l'influence. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, mais de quelles paroles s'agit-il ? Celles de Jésus, bien sûr, puisque c'est juste Jésus qui parle dans la parabole, celle que Jésus vient de dire à ses disciples sur la montagne. Et ce texte de Matthieu conclut le sermon sur la montagne, que Jésus dit à ses disciples notamment, mais qui est entendu par une foule immense, mais ça s'adresse à ses disciples, donc à nous, Église, une invitation à l'obéissance. Mettez en pratique, imprégnez-vous, vivez de ces paroles du sermon sur la montagne, et votre vie sera semblable à une maison construite sur le roc. Dans la parabole de Jésus, il parle de deux bâtisseurs de maisons. L'un d'eux est prudent alors que l'autre se montre insensé. Tous les deux s'affairent à construire leur propre maison, leur propre vie. On parle de construction, mais on parle de vie en même temps. L'activité des deux hommes semble identique. Jésus ne donne pas de différence. Il utilise les mêmes mots pour chaque construction, chaque constructeur. D'ailleurs, on ne perçoit pas de grande différence entre les deux maisons. Il est probable que l'on ait utilisé les mêmes matériaux de construction. Mais il y a une différence fondamentale qui les distingue, une différence qui ne se voit pas de l'extérieur. Elle ne se voit pas. Les maisons ne reposent pas sur les mêmes types de fondations. Est-ce que vous voyez comment sont faites les fondations de l'Église ici ? Je ne le vois pas. Est-ce que vous savez si les fondations sont ferraillées ou pas ? Pour ceux qui connaissent un peu la technique. Est-ce que vous savez si c'est des fondations à 80 cm de profond, c'est-à-dire hors gel ou pas ? On ne voit pas. Pourtant, la maison est debout. C'est une église. Magnifique. Cette différence ne pourra être exposée au grand jour que lors d'une tempête. Waouh ! La Palestine est un pays où les torrents peuvent se former soudainement, notamment pendant la saison des pluies, où de violentes tempêtes peuvent éclater et causer de désastreuses inondations. Et Jésus affirme que seule la maison bâtie sur le roc, reposant sur une base solide, seule cette maison résistera et ne s'effondrera pas. Qu'est-ce que le roc représente dans cette parabole ? Donc, c'est le fondement. Vous savez, le slogan, je fais exprès de dire ça comme ça, le slogan de Christ seul, le verset clé de Christ seul, qui est sur toutes les pages d'en tête de Christ seul, c'est 1 Corinthiens 3:11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Sur tous les Christ seuls, hein, c'est écrit, hein, vous pouvez en prendre un derrière, vous verrez, c'est écrit, systématiquement. C'est le fondement. C'est bon, hein, ça, pour nos églises. Hein, qu'on se rappelle ça. L'important, c'est le fondement. Cette fondation est déjà en place dans la personne de Jésus-Christ, c'est le roc, dans son sang et dans sa justice. On peut s'y fier entièrement, nous avons l'assurance qu'aucune intempérie ne peut l'ébranler, ce roc. Si nous avons érigé notre vie en prenant le soin d'avoir Jésus comme fondement, notre vie tiendra ferme dans la tourmente et l'adversité. L'homme sage est celui qui a pris la précaution d'ériger sa maison sur Jésus-Christ. Il s'agit d'un homme qui non seulement entend les paroles de Jésus, mais les met en pratique aussi. La différence qui sépare les deux personnes se perçoit par le type de fondation, c'est-à-dire par leur obéissance ou non-obéissance à Jésus. Alors là, c'est le temps où ça va bousculer un peu. Peut-être ça va vous bousculer, peut-être pas. Dans la parabole, les deux personnes connaissent Jésus. C'est pas dit qu'il y en a un qui n'est pas chrétien et l'autre qui est chrétien. Celui qui n'est pas chrétien est construit sur le sable. Celui qui est chrétien est construit sur le roc. La parabole ne dit pas ça. La mise en garde que nous fait Jésus, du verset 21 à 23, est reliée à celle retrouvée au verset 24 à 27 par le mot « donc » ou « c'est pourquoi ». Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », on parle bien des disciples de Jésus, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ah bon ? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi quiconque entend mes paroles, et Jésus enchaîne sur la parabole des constructions sur le sable et le roc. Les deux situations dont il est question dans le premier passage trouvent leur correspondance dans le récit des deux bâtisseurs. Il y a des gens qui appellent Jésus Seigneur, mais qui ne pourront pas entrer dans son royaume. De la même façon, il y a des gens qui construisent leur maison sur le sable, leur maison ne tiendra pas le coup quand viendra le mauvais temps. Par ailleurs, il y a des gens qui appellent Jésus Seigneur et qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Il est important de comprendre que dans cette parabole décrivant deux maisons reposant sur deux bases différentes, la comparaison ne se fait pas entre un chrétien et un incroyant. On parle ici de deux croyants, chacun professant connaître Jésus. Lorsque vous les regardez à l'église, il est difficile de les distinguer de l'autre. Difficile. Ils parlent comme les chrétiens. Ils se comportent comme les chrétiens. Ils font ce qu'un chrétien normal fait. Dans un sens, ils mènent leur vie selon les principes de l'enseignement de Jésus, ou du moins, ils donnent l'impression de le faire. C'est gênant ce que je dis là. C'est gênant. Tous les deux prêtent attention au message chrétien. Tous les deux sont familiers avec le contenu de la Bible. A priori, on ne distingue guère de différence. Et pourtant, elle est de taille. Cette différence ne saute pas aux yeux, car les fondations de leur vie se trouvent sous terre, à l'abri des regards. La vraie question à considérer n'est pas de savoir s'ils ont entendu la vérité, ni s'ils l'ont bien comprise, mais plutôt s'ils mettent en pratique ce qu'ils entendent. C'est notre obéissance aux enseignements de Christ qui déterminera notre destinée pour l'éternité. En éprouvant le travail de chacun, une tempête permet de distinguer le vrai disciple du faux. La tempête dans ce récit symbolise les épreuves de la vie comme la maladie, les échecs, les tourments de toutes sortes, etc. Au premier tremblement de terre, période de perte, un tremblement de terre. Période de perte. À la première sécheresse, c'est-à-dire période de carence, où les besoins seront insatisfaits. Ou à la première inondation, c'est-à-dire période de déprime et de larmes. La maison construite sur le sable s'effondrera et sa ruine sera complète. Et je connais des personnes qui vivent ça aujourd'hui. Et c'est la ruine. Et ils étaient frères et sœurs dans l'église, mais le fondement n'était pas là. Je ne les condamne pas. La véritable nature du disciple se montre surtout durant les moments de crise. C'est facile de dire « j'aime mon frère ou ma sœur » quand on a les mêmes affinités, les mêmes goûts, qu'on a les mêmes activités, le même rythme de vie. Mais si d'un seul coup, il y en a un qui vote à droite et l'autre à gauche, j'ai exprès un exemple comme ça. Puis moi, ma conviction, c'est que de dire « mais Dieu, il voterait à gauche !» C'est du social. Mariage pour tous aussi, hein. C'est compliqué hein, tout ça. Et puis d'un seul coup, ça crée un conflit. D'un seul coup, ça ne devient plus mon frère. Parce que je dis, non, ça va pas. Je prends un exemple comme ça, c'est idiot ce que je dis, mais ça peut ne pas l'être quelquefois. Je ne dis pas qu'il faut vous venir de l'autre côté, hein, rassurez-vous. Je n'ai pas dit ça. Il ne faut rien du tout, c'est votre cœur qui est juge. La véritable nature du disciple se manifeste surtout dans les moments de crise. Pas quand tout va bien. Quand tout est hors de contrôle. On ne pense pas à maquiller sa personnalité. Les difficultés qui viennent nous infliger ont ainsi cette étonnante propriété de révéler le fondement sur lequel repose notre vie. S'il n'est pas dévoilé au grand jour durant notre séjour sur terre, il le sera de toute façon par la tempête qui s'abattra au jour du jugement. Et dans l'Ancien Testament, le jugement divin et particulièrement le jugement final de Dieu est souvent symbolisé par une tempête. Seuls les élus seront enlevés. Ce jour-là, seuls ceux qui auront placé leur confiance sur le roc seront emportés auprès du Seigneur Jésus sur cette nouvelle terre, dans cette nouvelle Jérusalem. Cette parabole de Jésus est une invitation à mettre en pratique ce que l'on a entendu de l'enseignement de Jésus. Cette parole est une invitation à vivre l'obéissance de la foi. Et Paul utilise un terme bien particulier pour décrire l'accomplissement de la volonté de Dieu par la foi. Il parle de l'obéissance de la foi. Une école perpétuelle, un cheminement constant. Il n'y a pas de foi véritable sans une obéissance au commandement de Dieu. La foi ne nous sauvera pas s'il ne s'agit pas d'une foi qui s'exprime par des actes quotidiens d'obéissance à la volonté divine. La lettre dans Jacques décrit l'existence d'une foi fausse, c'est-à-dire d'une foi qui ne conduit pas au salut, ainsi que d'une foi authentique et salvatrice agissant avec des œuvres bonnes. Donc ça parle des fruits de l'esprit, hein, donc la foi qui va se voir au travers de notre manière de vivre, notre manière d'accorder notre compassion. Parce que Christ a eu de la compassion, donc une foi qui se voit. Jésus fait aussi référence à cette obéissance de la foi, mais il emploie des mots différents. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, tout simplement, hein, et qui les garde. Donc si on aime, on garde, et si on garde, on va vivre autrement. Nos choix vont changer, notre regard sur l'autre va changer. On va vivre, non seulement entendre, mais vivre quelque chose. Jésus nous confie qu'il se manifestera à nous, à ceux qui obéissent. Il se manifeste à ceux qui obéissent et qui gardent ses commandements. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit Jésus, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Chez qui a-t-il promis d'établir sa demeure? Chez ceux qui obéissent à sa parole. Alors une conclusion à tout cela. Et je prends deux exemples qui sont connus dans la Bible pour bien illustrer ce que je viens de partager. Et je pense que moi, ils m'interpellent. Savez-vous que le jour où Jésus prêcha ce sermon sur la montagne, il y avait deux bâtisseurs parmi ses disciples. Deux bâtisseurs. Il y avait Pierre, l'apôtre, Simon Pierre, et il y avait un autre bâtisseur, Judas, qui était là. J'en prends deux exprès, qui sont parlants. Tous les deux étaient en train de construire une maison autour de Jésus. Autour de Jésus. Si vous aviez regardé à leur édifice ce jour-là, vous auriez probablement envié celui de Judas. Ah oui. De l'extérieur, il avait l'air meilleur maçon que Pierre. Il était plus raffiné. Pierre était plus simple, un pêcheur, vous savez, plus plat, plus rustre. Judas inspirait la confiance. Il tenait la bourse des disciples, les finances des disciples. La Bible dit, c'est lui qui gérait. Pierre était pêcheur, un marin au visage creusé par la mer. Il avait l'apparence dure comme ça. Quand Jésus dit aux 12 dans la chambre haute, l'un de vous me trahira. Rappelons-nous cette histoire. Ce récit, ce n'est pas une histoire, une belle histoire, c'est un récit. L'un de vous me trahira. Personne ne suspecta Judas. Waouh, quelle construction magnifique. Personne ne suspecta Judas. Les 11 se demandaient si c'était d'eux que Jésus parlait. Est-ce que c'est moi qui vais trahir Jésus ? Mais moi, je l'aime. Judas était leur... Judas leur avait jeté de la poudre aux yeux, comme on dit. Après 2 ans de vol et de mensonges, personne ne le soupçonnait. Il avait construit une maison avec une belle façade. Mais Pierre avait bâti une maison solide. Il croyait vraiment que Jésus était le Fils de Dieu. Il l'écoutait attentivement et tâchait de suivre l'enseignement. Il mettait en place des fondations profondes. Il cherchait un pas à la fois. Il changeait, un pas à la fois ses vieilles habitudes. Puis vint le vent. On a dit la tempête va dévoiler des choses, des fondations. La tempête souffla dans la vie de Pierre et dans la vie de Judas, dans les deux vies. La pluie tomba, la rivière monta, et quand elle rentra enfin dans son lit, la maison de Judas était soufflée, emportée. Il n'en restait rien. Elle ne pouvait pas résister parce qu'elle n'avait pas de fondation. Et donc Judas n'avait aucun espoir, il n'entrevoyait qu'une solution, la mort. Et c'est ce qui s'est passé. Pas de fondation, pas d'objectif dans la durée, pas de perspective. Mais quand la tempête quitta Pierre, sa maison tenait toujours debout. Quelques tuiles manquaient. Vous savez, la tempête que Pierre a subie, quand il a renié Jésus 3 fois, une tempête terrible dans sa vie. Terrible. Quand Pierre était dans le jardin de Gethsémané, il a voulu se mettre devant les gens qui venaient arrêter Jésus. Une tempête. Vous voyez ? Il y a eu des tuiles qui manquaient après la tempête, les fenêtres étaient cassées, mais sa maison était toujours debout. Tous les flots de l'enfer n'avaient pas réussi à l'emporter. Pourquoi ? Parce que Pierre avait le secret, il possédait Jésus et il était à l'écoute. Et la promesse que Jésus avait faite en Matthieu 7 était la sienne. Jésus était sa fondation et son roc. Alors aujourd'hui, je nous invite à nous reposer cette question. Alors on peut se la reposer. J'ai vu il y a quelque temps de cela une église côté de Bar-le-Duc qui avait les fondations donc, du XIIe siècle, si ma mémoire est bonne, à Longeville-en-Barrois, dont les fondations étaient abîmées avec les années, et elle se fissurait, cette église. Et on peut réinjecter dans les fondations des choses. On peut consolider nos fondations. C'est pour ça que ce n'est pas incohérent, peut-être, ce que je vais dire. Est-ce qu'aujourd'hui, nous bâtissons sur le roc ? Sur quoi bâtissons-nous aujourd'hui ? Sommes-nous des pierres ? Ou sommes-nous, peut-être, des Judas ? On ne peut pas être accusé de Judas, parce que... Et pourtant, combien de fois, moi, j'ai trahi Jésus aussi. Je veux dire, c'est pas possible, Pierre-Nicolas, tu prêches devant nous, tu as trahi Jésus. Dans certaines choses, certainement, dans ma vie. Mais j'aimerais que ces fondations, elles soient solides. J'aimerais qu'on réinjecte du roc dans ces fondations. Christ est-il notre fondation ? Sommes-nous Êtes-vous, sommes-nous, un vrai maçon ou un bricoleur dans nos vies? Dire « moi je vais au culte », voilà, c'est bien. Je suis chrétien, je vais au culte. Le culte du dimanche, pour ceux qui sont venus à la formation à Toul, et nombreux, vous étiez à cette formation sur le culte du dimanche matin, c'est le petit culte qui nous emmène dans le grand culte de la semaine. Là, on continue à vivre sur les fondements de l'Évangile. Sommes-nous en train de construire un mur dans notre vie, ou sommes-nous en train de construire une magnifique cathédrale? Quel type d'ouvrier sommes-nous? Et juste pour terminer, j'aime dire, parce que je l'ai entendu, je ne fais que le répéter, que nous sommes ouvriers du plus grand chantier du monde, c'est l'Église de Jésus-Christ. Ça fait 2000 ans que ça dure, nous sommes, nous, ouvriers. J'espère que nous voyons, nous, cette Église de Jésus-Christ, dans notre service de maçon, de constructeur, de bâtisseur, et que nous ne voyons pas simplement le mur ici que nous sommes en train de faire parce que je crois en Christ. Oui, je crois en Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. Amen.